Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Alors pour RVM, je vous propose la seconde partie de mon reportage sur l'exposition du Sageba et du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France autour des zones naturelles protégées par le Conservatoire dans le bassin de la vallée de l'Automne. Je rencontre toujours Thierry Decouter, qui est un des conservateurs de ces espaces. Est-ce que tu as envie de nous présenter un panneau, on ne va pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y en a un que tu as envie de nous présenter ?
Il y a plusieurs thèmes sur cette exposition. Il y a la présentation, évidemment, de ce qu'est un bassin comme le bassin de l'Automne, avec le bassin versant, etc. Donc là, c'est plus ou moins l'aspect géographique. Qu'est-ce que c'est que ce bassin de l'Automne ? À quoi ça correspond ? On s'aperçoit que c'est 120 km de cours d'eau, ce qui est quand même assez énorme. C'est 287 km² de bassin qui couvre cette zone. C'est 40 communes, 39 communes très exactement, du coin sont concernées. Alors ça va de Villers-Cotterêts jusqu'à Verberie d'un côté, et ça va de Ormois-Villers-Rosières jusqu'à Morienval de l'autre. Okay. D'accord ? Nord-Sud et Est-Ouest.
Ouais, ouais, ouais.
Ensuite, on voit l'évolution justement, comment gérer les eaux pluviales. Tu as les deux aspects, tu vois, par exemple. Un premier aspect ici où tu vois énormément de zones bétonnées, bitumées, etc. Et là, par contre, c'est un drame. Et ça explique aussi dans certains cas, peut-être pas dans le coin, mais ça peut expliquer également dans certaines zones où il y a beaucoup d'eau, les problèmes d'inondation que l'on peut avoir, qui sont d'un seul coup très, très, très soudaines et de plus en plus fréquentes, parce qu'on a de plus en plus de zones bétonnées, etc., où l'eau ne peut plus s'infiltrer, et l'eau, en fait, va suivre les routes, les trottoirs, etc., comme si c'était des torrents, et puis ça va arriver quelque part, où ça va s'accumuler, ça va être des drames. Alors c'est pour ça qu'on explique à côté ici, gestion des zones humides, comment faire pour justement redonner à ces zones-là des zones tampons, des zones qui vont pouvoir accepter de stocker et de garder l'eau plutôt que de la renvoyer directement dans les rivières et faire les inondations qu'on peut avoir dans certains cas. Une autre partie qui est très intéressante également, c'est la partie qui concerne les phytosanitaires. On boit l'eau des nappes phréatiques, on est bien d'accord. Cette eau, elle est pompée dans les... par ici, c'est à Auger-Saint-Vincent. Hein, donc l'eau qui alimente une grande partie du bassin, ça, c'est une grosse pompe qui est à Auger-Saint-Vincent. Et on est donc sous d'immenses zones agricoles, des zones extrêmement prolifiques, hein, qui sont extrêmement intéressantes au niveau des récoltes. Si on y ajoute à ça les phytosanitaires qui pourraient être utilisés dans tous les villages pour désherber, pour nettoyer, etc. Alors, j'aime pas le mot nettoyer parce que pour moi, l'herbe, c'est pas du poison. L'herbe, c'est pas sale. Je préfère très honnêtement avoir à l'entrée d'un village des herbes folles, des chardons, etc., que des papiers gras ou des mégots de cigarettes. On a donné tellement l'habitude aux gens de leur faire croire ou de leur faire penser que pour que ce soit propre, il faut pas qu'il y ait d'herbe. Ça commence à changer quand même. Hein. Et justement, on explique ici avec ces panneaux que l'intérêt, c'est qu'on a de plus en plus de villages qui pensent leur aménagement différemment, qui acceptent maintenant, par exemple, de laisser les cimetières s'enherber, plutôt que de se bagarrer contre l'herbe, et on n'y arrivera jamais, l'herbe gagnera tout le temps, autant laisser les cimetières s'enherber, les tondre, les nettoyer, en les tondant, mais pas en essayant d'arracher l'herbe. Ça sert à rien. Des cimetières minéraux, c'est pas très joli. Vaut mieux un cimetière qui soit bien tondu, c'est beaucoup plus sympa. C'est
vous êtes
plus
un
sympa.
Peu médiateur, du coup, auprès des communes, en fait, hein, pour qu'ils
changent un peu de mentalité. Bien sûr, l'idée, c'est de faire comprendre aux communes, de faire comprendre aux habitants, de faire comprendre aux conseils municipaux, etc., qu'il y a autre chose à faire que de désherber dans les communes. C'est très consommateur de temps. Ça nécessite d'acheter des machines, du carburant, de l'entretien, des assurances, etc. Ça coûte très cher. De vouloir garder des espaces sans herbe, ça coûte extrêmement cher. Si on réfléchit à ça différemment, on peut très bien, au contraire, faciliter la vie de l'herbe, la rendre en fait plus amicale avec les riverains et faire en sorte qu'on ait des beaux espaces qui soient tondus régulièrement, mais qui soient propres. Par contre, oui, si on veut payer des gars, autant les payer à ramasser les déchets qui traînent. Mais désherber, ça ne sert à rien.
Ouais,
donc ça, c'est la partie qui concerne l'arrêt ou la diminution des produits phytosanitaires, parce que mine de rien...
Ça pollue les nappes, en fait. Hein,
ça pollue de toute façon, quoi qu'on en dise. Hein, il y a bien sûr des
mais
gens
ça peut arriver jusqu'aux nappes. Hein,
ça arrivera jusqu'aux nappes. Ouais. Et après, il va falloir dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Mais ça arrive déjà jusqu'à certaines nappes, j'imagine.
Et il va falloir dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour enlever ces produits pour qu'on puisse boire.
Dépolluer l'eau, quoi.
Donc, autant le faire en amont, en diminuant l'usage des phytos, donc en fait en ayant une eau au départ qui soit moins polluée.
L'eau est surveillée de toute façon, j'imagine,
très
régulièrement.
Elle est très surveillée, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis on finit cette série de panneaux du Sageba par ce qu'on appelle les continuités écologiques, etc. Donc c'est tout ce qui est en fait donner la possibilité aux espèces de passer d'un rue à une rivière, d'une rivière à une autre rivière, d'aller d'un bassin à un autre, d'un étang à un rue, et ainsi de suite, qu'il y ait des accès pour que les animaux, pas seulement les poissons, hein, mais évidemment, mais tous les animaux, des corridors pour la biodiversité qui permettent à la biodiversité de se déplacer dans toute la vallée. Quand on parle de confettis, de petites zones préservées, parfois elles ne peuvent plus être en contact l'une avec l'autre. C'est là qu'en fait le drame arrive et que les espèces finissent par disparaître. Alors que si jamais on arrive justement en arrangeant correctement et en pensant intelligemment la vallée, avec le Sageba, avec le conservatoire, on arrive à redonner à ces vallées une vraie vie. C'est-à-dire que tout au long de la vallée, les espèces, aussi bien en botanique que les oiseaux, c'est plus facile pour les oiseaux, mais les amphibiens, les insectes, etc., peuvent se déplacer d'un point à l'autre. Puis on finit le dernier panneau qui est amusant, pas si amusant que ça, mais enfin, les espèces exotiques envahissantes, oui. On s'aperçoit qu'il y a...
n'existait pas avant.
Ben voilà.
Elles sont arrivées comment?
Ça dépend. Par exemple, le raton laveur, il est assez commun maintenant dans la vallée de l'automne. Moi, j'en ai vu passer devant chez moi. Ça fait une cinquantaine d'années qu'il est là, le raton laveur. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des animaux qui ont été laissés par les Américains à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient venus avec leur mascotte dans leur régiment. Et quand ils ont dû quitter le sol français, ils ne savaient pas quoi en faire, alors ils l'ont laissé.
Ils sont venus avec des ratons laveurs.
C'était la mascotte du régiment, la mascotte de la division. Et donc les ratons laveurs qui étaient là ont été balancés dans la forêt. Et c'est très opportuniste, un raton laveur, ça mange de tout, ça mange des écrevisses, ça mange du poisson, des grenouilles.
Ça adapte à son nouvel environnement.
Il mange des œufs, mais il le fait aux dépens des espèces locales. Et en fait, il commence petit à petit à poser des problèmes parce que... il a tendance à s'imposer par rapport à des espèces locales qui ont du mal à lui résister, quoi. Mm-hmm. Hein, donc c'est un petit peu un problème. T'as aussi l'écrevisse de Louisiane, quoi, l'écrevisse américaine, qui prend la place de notre écrevisse locale, l'écrevisse à pattes blanches.
Elle est arrivée comment, elle?
Pareil, c'est arrivé par des élevages, etc., parce que c'est une écrevisse qui est un peu plus grosse, c'est plutôt tonique, qui se reproduit plus vite. Mais après, le problème, c'est qu'elle a réussi à se libérer, ou en tout cas, elle a été assez dispersée. Aujourd'hui, elle fait disparaître l'écrevisse à pattes blanches. Voilà pour la partie Sageba. Puis ensuite, tu as ces beaux, magnifiques panneaux avec des très belles photos du conservatoire.
Les zones humides dont tu
en Picardie,
parlais tout à l'heure.
En Picardie, voilà.
Est-ce que tu veux nous donner le site internet du conservatoire pour les gens que ça pourrait intéresser?
Le site internet du conservatoire, écoute, je vais te le trouver. Il est sur ce calendrier nature magnifique, tu vois. Tu as environ 300 sorties dans l'année, chaque année. 300 sorties qui sont organisées par les différents conservateurs bénévoles du conservatoire.
Qui sont enregistrés dans
les Hauts-de-France. Qui sont enregistrés sur ce calendrier nature. Là, c'est le 2021.
Là, il est en version papier, peut-être
version
qu'on
papier.
L'a aussi en version numérique.
Tu l'as
numérique,
en version également en version numérique. Et tu peux aller chercher ça sur le site du conservatoire, CEN pour Conservatoire des Espaces Naturels, CEN. Ensuite, un tiret, le tiret du 6. Et ensuite, on a Hauts-de-France, en un seul mot.
Hauts-de-France, tout à
fait. Ou, bien sûr, avec un S, hein, parce que c'est les Hauts-de-France.org. Si tu vas sur ce site, tu vas y trouver toutes les sorties, département par département, week-end par week-end, qui sont organisées chaque année.
Ok, avis aux amateurs.
Quand on a envie de sortir dans la nature, il n'y a pas un week-end de l'année quasiment où on n'a pas une sortie de prévue. C'est extraordinaire.
Et en plus, s'il y a des gens qui ont envie de venir aider pour l'entretien de ces sites, ils sont complètement bienvenus.
Alors, évidemment, régulièrement, sur les sites, sont organisés des chantiers nature qui permettent en fait à des petits groupes qui se forment autour du conservateur et également des chargés de mission ou des chargés d'études du conservatoire. Tu as des petits groupes comme ça qui se forment et qui vont venir entretenir, débarrasser un site de plantes envahissantes par exemple, débroussaillés, nettoyés, etc. Et ça, ça se fait tout au long de l'année. Par exemple, juste à côté de Crépy-en-Valois, tu as un site qui est régulièrement entretenu. Je crois que c'est tous les deux mois, le conservateur bénévole, Joël, organise Claverie. Un site. Voilà, Joël Claverie, pour ne pas le citer.
Ormois-Villers, Bois-du-Roi.
Voilà, Perrois-les-Gombrilles.
Il y en a un Feigneux aussi, c'est mes souvenirs.
Alors, il y en a un Feigneux avec le jeune homme que vous avez en face de moi, là, qui s'agite. Monsieur Jean-Louis Saugorbe, qui s'occupe de Feigneux.
Qui était prof.
Mon prof de SVT, effectivement.
Moi aussi, je crois. Oh,
il y a 5-6 ans. Sur le site dont je m'occupe également à Roquemont, on fait régulièrement au moins un chantier nature. Donc ceux qui souhaitent participer, ça se fait toujours dans une très bonne ambiance. Les outils sont fournis, il n'y a pas d'objectif, hein, on ne va pas épuiser les gens à la tâche. Généralement, il y a un bon petit casse-croûte qui est offert à la fin.
Toujours très fait bien. Pour avoir ces infos sur
pareil.
Les chantiers nature.
Tu les as, pareil, dans ce catalogue, les chantiers nature sont indiqués.
Ouais.
Et puis évidemment, on invite tous les gens du coin qui aiment la nature à adhérer. Et à adhérer, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Bon, le SAGEBA, on n'adhère pas, parce que le SAGEBA, c'est un syndicat intercommunal. C'est sur les collectivités qui sont adhérentes. Hein. Par contre, pour le conservatoire, pour une dizaine d'euros, membre individuel, 10 euros, ça te permet pendant toute une année de montrer ton attachement à ton territoire,
aux espaces naturels,
à la biodiversité. Mm-hmm. Ça te permet d'être informé non-stop de tout ce qui se passe dans ton coin. Ça te permet de rencontrer plein de gens merveilleux. Et ça permet aussi, bien sûr, de faire partie d'une communauté qui va faire en sorte de transmettre un patrimoine aux générations futures. C'est quand même ça aussi l'objectif. L'objectif, c'est de préserver un patrimoine et de le transmettre dans 20 ans... 30 ans, on ne sera plus là. Et j'espère bien que quelqu'un aura pris ma place.
Bon, il y aura des relais. Moi, je ne suis pas très inquiète.
J'en suis persuadé. J'espère
que la génération d'après, elle est pas mal.
Il ne faut pas l'oublier, ça permet aussi de peser face à des décideurs. Parce que quand tu te présentes face à un décideur, à un président de région, à un ministre, à un secrétaire d'État, etc., et que tu as une association où on est 50-60 Pékin, on ne te reçoit pas. Mais quand tu représentes quelques dizaines de milliers d'adhérents et que tu as une vraie raison d'être,
on te reçoit.
Là, on te reçoit, on t'écoute.
On t'écoute.
On t'écoute.
Ouais.
Évidemment, tous les gens aussi peuvent trouver sur le site web le bulletin d'adhésion, mm-hmm. Alors, soit mon nom individuel, familial, etc.
Très bien. Hein bah, écoute, merci voilà. Beaucoup Thierry. C'est une présentation très complète de cette exposition.
Merci.
C'était Anne-Laure pour RVM. Je vous ai proposé la seconde partie du reportage sur l'exposition à Séry-Magneval, organisée par le SAGEBA et le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France sur les zones naturelles protégées dans le bassin de la vallée de l'Automne. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.